Radio Barque numéro 31, nous avons choisi de vous parler de romanité, de la Narbonne romaine et d'une exposition que personnellement je trouve très spectaculaire et pour laquelle je vous invite à aller la voir et à la vivre, non seulement la voir, mais la vivre et la sentir au bout des doigts pratiquement, qui s'intitule donc Narbo Martius, Renaissance d'une capitale, par laquelle on a recréé en quelque sorte la ville romaine telle qu'elle a pu ou qu'elle a probablement existé. Alors on a parlé des moyens techniques pour y arriver, on a parlé aussi, tentative d'explication avec le conservateur Ambroise Lassalle, sur le pourquoi de la disparition de tous ces monuments qui apparemment étaient spectaculaires et étaient très imposants. Bon, on arrive en tout cas à des explications. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la façon dont Marc Azéma vous parlait de restitution, c'est-à-dire on essaie de reproduire, d'imaginer, de faire vivre, en s'appliquant sur tout un tas de techniques. Alors d'abord, la bande dessinée, c'est assez logique, le dessin, mais également, ça peut surprendre un peu plus, les jeux vidéo. Je crois même que on s'appuie par moments sur des storyboards, par exemple du film américain Gladiator. Je crois que c'est ça. Enfin, démentez-moi si je me trompe. Donc, on s'appuie sur toutes ces choses-là, sur des gens qui ont fait un travail d'imagination. Et dans l'exposition, vous êtes allé chercher des documents. Par exemple, je crois, Ambroise Lassalle, vous m'avez dit que certains documents viennent de Belgique, jadis terre extraordinaire de la bande dessinée.
Oui, alors on a bénéficié effectivement de prêts de documents originaux de bande dessinée. L'idée étant de montrer les prolongements de la restitution archéologique dans la culture populaire. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, cette culture populaire, elle est très présente, que ce soit la bande dessinée, que ce soit les jeux vidéo, le cinéma, et on constate qu'effectivement tout le travail que les archéologues font depuis des décennies, des siècles, de restituer le passé, bien sûr, ça se retrouve dans tous ces domaines-là. Et donc on a bénéficié, on a souhaité montrer ça, et pour le coup, donc on a eu la chance de bénéficier d'un prêt de documents de la bande dessinée Alix, réalisé par Jacques Martin. Donc un dessinateur qui est aujourd'hui décédé, mais qui a eu beaucoup de succès avec cette aventure, cette bande dessinée qui raconte les exploits d'un personnage à l'époque romaine. Et donc on a bénéficié du prêt de 6 planches originales qui sont présentées dans cette exposition et qui permettent de voir comment est travaillé ce grand dessinateur.
Ça, c'est un peu la préhistoire de la restitution, en quelque sorte.
En quelque sorte. En tout cas, la préhistoire de sa traduction dans la culture populaire.
Ouais. Oui. Et puis après, bien entendu, Marc Azéma, vous y avez fait allusion, on s'appuie sur les techniques les plus modernes, y compris les jeux vidéo, ça peut sembler surprenant.
Alors, ce qui se passe, c'est vrai qu'en fait, il y a deux parties prises dans cette exposition, en fait, deux intentions. Qui est de montrer évidemment la ville, donc la renaissance de cette capitale, de la montrer, hein, mais également de profiter de l'occasion pour voir de quelle manière donc les techniques de restitution qui sont au départ du dessin, hein, du dessin en deux dimensions, ont pu évoluer à travers les siècles jusqu'à notre époque, c'est-à-dire les images de synthèse, la 3D est utilisée par les scientifiques à travers les scans, les scientifiques utilisent la 3D. Mais il se trouve qu'en parallèle de ça, les arts populaires, ce qu'on appelle maintenant la pop culture, se sont largement inspirés des travaux de restitution qui étaient faits par les scientifiques pour après les prolonger, pour aller un peu plus loin. Alors parfois, malheureusement, c'est que pendant longtemps, on a considéré la pop culture comme quelque chose de secondaire, d'inintéressant.
Une sous-culture un peu.
Voilà. Donc du coup, les scientifiques et malheureusement les artistes n'ont pas trop collaboré. Donc par exemple, moi, Jacques Martel, j'ai eu la chance de le connaître et tout ça. Il a toujours un peu souffert du dédain des scientifiques. C'est-à-dire, il rêvait de travailler avec les scientifiques. Il a travaillé avec certains scientifiques, Jean-Yves Empereur, par exemple, égyptologue. Mais il a été un peu dédaigné aussi, alors que c'était quelqu'un qui était ingénieur de formation, qui avait des aptitudes, etc. Donc voilà. Et alors maintenant, c'est un peu l'effet inverse. C'est-à-dire que de plus en plus de scientifiques collaborent avec les gens de la bande dessinée ou du jeu vidéo, parce qu'ils ont pris conscience que ça pouvait aider, justement, à aller plus loin dans les hypothèses, et aussi transmettre des connaissances. Alors, il y a des imperfections, il y a des choses qui vont pas, etc. Donc, c'est pour ça qu'à travers l'exposition, on voulait voir comment la restitution, quelque part, a contaminé la pop culture, hein, les artistes, et en même temps les éduque, vous voyez, parce qu'il y a de plus en plus d'artistes de bande dessinée ou dans le jeu vidéo qui sont avides de connaissances, qui adorent l'archéologie et qui vont maintenant vers l'archéologie et qui travaillent avec les archéologues. Donc ça, c'est un peu ce qu'on a montré. Et en même temps, on a voulu aussi montrer qu'il y avait aussi des fantaisies. Par exemple, Gladiator, c'est un film qui s'inspire en partie de l'archéologie, mais qui prend aussi des libertés parce que la médiation, c'est pas de la médiation. Vous voyez. Là, on est dans la fiction, on est dans la transmission, mais surtout, on est dans de l'œuvre artistique. Et là, on voulait montrer aussi qu'il y avait des parties pris fantaisistes qui étaient faites par exemple, dans Gladiator par rapport à la réalité de ce qu'étaient les gladiators, mais qui correspondaient à des intentions de mise en scène. Hein. Par exemple, l'élaboration du casque ou les combats qui sont scénarisés un peu différemment, mais volontairement. C'est-à-dire que Ridley Scott avait des parties pris et a travaillé avec son storyboarder Sylvain Despresque, dont nous avons la chance d'exposer plus d'une vingtaine d'œuvres originales liées à ce film. Donc on voit très bien la manière dont c'est scénarisé et en quoi c'est différent aussi des travaux d'expérimentation qui sont faits par la société ACTA, qui fait de l'expérimentation en matière de combat de gladiateurs. On voit bien la différence, vous voyez. Donc on ne dénie pas, on montre, il y a la réalité, il y a l'archéologie à travers les objets exposés par le musée, il y a des bas-reliefs avec des gladiateurs. On montre comment les scientifiques collaborent avec des expérimentateurs pour reconstituer des combats tels qu'ils pouvaient être durant l'Antiquité. Et en même temps, on prend le cas, à ce moment-là, de films un peu plus scénarisés, un peu plus fantaisistes, qui se démarquent un peu de la réalité, mais qui, en même temps, ont profité de l'archéologie en restituant, par exemple, la Rome antique. Et là, il y a eu un gros travail de restitution par les 3D et par les maquettes de la Rome antique qui a été fait dans le film Gladiator, qui est assez formidable. Et puis surtout, ce qui est important aussi d'aborder la pop culture, même s'il y a des problèmes, bon, qu'il faut râler les plus grincheux, etc., des problèmes de restitution, d'exactitude scientifique, l'intérêt d'un film comme Gladiator, c'est qu'il éclaire sur une période et il crée des vocations. Mmh. Et la bande dessinée, par exemple, Beck et Mortimer ou Alix, sont à l'origine de nombreuses vocations de scientifiques. Donc c'est aussi un hommage qui est fait.
Oui, donc curieusement, même si c'est un film, si c'est de la fiction, s'il y a de l'invention, de la création, ça crée, ça suscite des vocations. Ouais. Donc des gens qui vont revenir vers la science.
Exactement, il ne faut pas négliger, c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger ces outils-là.
C'est surtout à l'époque de l'enfance, où moi j'ai des enfants qui sont jeunes encore, et je vois qu'il y a un âge où on dévore des bandes dessinées, et ça parle à l'imaginaire, c'est extraordinaire.
Oui, il en reste des traces.
Et je pense que moi-même, je suis un peu dans ce cas-là aussi, je pense que on a tous été nourris par ça. Alors, en grandissant, on prend conscience de la dimension fictive et même parfois Astérix, c'est parodique, on s'amuse. Mais ça ouvre aussi sur des périodes anciennes et c'est important pour vraiment engager des vocations.
Pour aller encore plus loin, c'est que maintenant, ça se passe aussi avec le jeu vidéo. Et l'intérêt, c'est que les gamins jouent à des jeux vidéo, à des licences qui s'inspirent de plus en plus de l'archéologie, de l'histoire. Et après, on a envie d'aller plus loin et peuvent aller sur de la connaissance. Et juste pour terminer ça, c'est qu'il y a une boucle qui est un peu faite avec ironie, c'est que le logiciel principal qu'on utilise pour la restitution, c'est un logiciel qui a été créé par une société de jeux vidéo qui s'appelle Epic Games, avec qui on a pu faire aussi le documentaire, et qui est à l'origine d'un des jeux les plus connus actuellement, qui est Fortnite, sur lequel jouent tous les gamins, qui n'a rien à voir avec l'archéologie, mais qui a permis de générer ce logiciel, qui à l'heure actuelle est utilisé dans le jeu vidéo, mais également dans les documentaires, et de plus en plus par des documentaires liés à l'archéologie. Moi, j'ai plein de collègues qui travaillent maintenant de plus en plus avec ce logiciel, qui permet des choses extraordinaires justement pour restituer et pour générer des hypothèses scientifiques.
Donc il est bon donc de rendre à César ce qui appartient à César, exactement, en quelque sorte. Et alors, pour terminer cette troisième partie, Marc Azéma, l'avenir, alors, il y aura d'autres expositions, puisque c'est la mission de ce musée, mais dans l'immédiat, vous-même, vous faites depuis un certain nombre d'années un festival d'archéologie sur Narbonne. On imagine qu'il y a forcément des liens avec le musée d'Arbovia aujourd'hui. Comment ça va se passer dans les mois qui viennent?
Alors, bon, je préside les rencontres d'archéologie de la Narbonnaise qui ont lieu la première semaine de novembre, du 1er au 7 novembre cette année, qui arrive à son dixième anniversaire cette année, donc qui est une date symbolique pour laquelle on veut vraiment finir de consolider tout ce qu'on a mis en place. Et c'est un festival qui est transmédia, entre guillemets, comme on dit, qui aborde l'archéologie sous toutes ses formes, le film, il y a des conférences très scientifiques, il y a des journées professionnelles mêlant scientifiques et gens de la médiation, il y a également un prix du livre et un prix de la meilleure BD qui est alloué chaque année, avec un jury de professionnels vraiment haut de gamme, entre guillemets. Donc il y a cette volonté de faire annuellement, parce que c'est annuel, Narbonne, le centre de l'archéologie, carrément, c'est une ambition. Bon, moi, c'est pas du tout un problème d'ego, etc. Mais je sais qu'il y a ça à faire. Et on est sur les rives de la Méditerranée, donc on est face aussi à ce bassin méditerranéen qui correspondait aussi à l'Empire romain. Donc, le positionnement de Narbonne est idéal. Il est tourné aussi vers les autres pères de notre histoire. Et depuis l'avènement du Narbovia, nous sommes partenaires avec le musée et nous en réjouissons parce que ça, c'est un espace fort qui vient également compléter celui du Palais des Archevêques. On a deux pôles maintenant patrimoniaux sur les rannes, et ça c'est formidable parce que ça nous permet maintenant de développer tout ce qu'on est en train de faire autour de la médiation de l'archéologie et pour toucher le public le plus large. Donc l'exposition sera aussi connectée à ces rendez-vous parce que nous allons aussi, à travers les rencontres d'archéologie en Narbonnaise, on va aussi parler un peu de making of, comment on a restitué, vous voyez, telle statue, comment on a restitué tel monument, on va aborder ça. Et en même temps, d'autres personnes, d'autres horizons, d'autres lieux, d'autres villes vont aussi montrer des exemples de restitution. Donc vous voyez, il y a une résonance qui est faite et un vrai partenariat qui est fait avec le musée et la ville.
Un échange, comme on peut s'en douter. Et donc, Narbomartius alias Narbonne va peut-être. Ça sera la renaissance d'une capitale, celle de l'archéologie.
Voilà, c'est l'ambition. N'ayons pas peur, il n'y a pas à rougir. Moi, je suis Narbonnais, j'ai toujours, moi-même, on a toujours été un peu complexés des fois par rapport à notre passé. Là, je pense qu'on a maintenant les outils pour aller plus loin. C'est compris par les professionnels qui viennent à Narbonne, ils ont très très bien compris le message, et l'idée d'avoir des rencontres annuelles autour de l'archéologie, de faire de Narbonne la capitale de l'archéologie en termes de médiation, etc., c'est quelque chose qui tient vraiment la route.
Voilà, quelque chose qui n'est pas incongru du tout. Absolument.
Écoutez, revendiquer.
Voilà. Merci à vous deux, Marc Azéma, Ambroise Lassalle, pour être venus nous expliquer et nous faire vivre un petit peu cette exposition. Mais forcément, maintenant, il reste une chose à faire, c'est d'aller la voir, et encore, je dis bien, d'aller la vivre et de vous situer en bas des marches, et vous verrez, vous vous sentirez, peut-être, vous ressentirez ce qu'ont pu ressentir nos ancêtres romains il y a combien,
2000 ans.
2000 ans. Merci à vous deux. Le prochain invité, on sera un petit peu dans la note, puisque je vais recevoir Yves Penet, qui est adjoint à la culture à la ville de Narbonne, justement où on parlera peut-être encore d'archéologie. En tout cas, on va évoquer avec lui la conséquence de la naissance de ce musée Narbovia par rapport au musée archéologique qui existait, qui existe encore, mais qui doit forcément se resituer, se recadrer peut-être. Et c'est de ce sujet que nous parlerons avec l'adjoint à la culture de la ville de Narbonne, Yves Penet. Merci en tout cas aux auditeurs de nous avoir suivis.
Merci.
Et à la semaine prochaine.